VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 13 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au moins 4 personnes sont mortes depuis mercredi en Côte d'Ivoire lors de manifestations contre la candidature du président Alassane Ouattara. Au Burkina Faso, l'imam de Djibo, Souabou Sissé, a été enlevé par des hommes armés en revenant de Ouagadougou. Les forces de sécurité soudanaises sont déployées à Port-Soudan après des violences tribales qui ont fait plus de 30 morts depuis dimanche. Après l'Égypte et la Jordanie, les Émirats Arabes Unis renouent avec Israël, une première pour les pays du Golfe. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au moins 4 personnes sont mortes depuis mercredi en Côte d'Ivoire lors de violences liées à la candidature du président Alassane Ouattara. Un jeune de 18 ans a été tué ce jeudi à Bonoua lors de heurts entre manifestants et forces de l'ordre, a annoncé le maire de la ville, Jean-Paul Amétier. D'autres sources ont fait état d'au moins 3 morts à Daoukro lors d'affrontements mercredi entre des partisans de l'ex-président Henri Konan-Bédié et des jeunes favorables à Alassane Ouattara. Des manifestations ont encore éclaté ce jeudi à Abidjan et dans ses environs. Abdourahmane Dia.
Les autorités ont annoncé hier l'interdiction des manifestations, mais aujourd'hui, à l'appel de l'opposition et de la société civile, des manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus dans différents quartiers d'Abidjan. Nous manifestons pour le départ du président Ouattara parce que sa candidature viole la Constitution. Nous ne voulons pas accepter un troisième mandat, a expliqué Hervé Seka dans le quartier d'Anono. Dans le quartier populaire de Yopougon, ancien fief de Charles Blé Goudé et des jeunes patriotes, des affrontements entre policiers et manifestants ont paralysé la circulation autour du palais de justice. Dans le quartier résidentiel de Cocody, les policiers qui procédaient à des fouilles corporelles sur les passants ont toutefois interpellé un groupe de femmes chantant l'hymne national, le drapeau ivoirien en main. Des manifestations se sont également déroulées dans d'autres villes comme Bonoua, à 50 km d'Abidjan, d'où est originaire Simone Gbagbo, l'ex-première dame. Hier déjà, plusieurs personnes ont été blessées dans des incidents à Daoukro, le fief de l'ex-président Henri Konan-Bédié, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre.
Au Burkina Faso, l'imam de Djibo, Souabou Sissé, a été enlevé mardi par des hommes armés à son retour de Ouagadougou entre Namsigia et Djibo. Le point avec notre correspondant Kader Traoré.
Le patriarche de 73 ans revenait de Ouagadougou où il avait pris part à un mariage. Il était à bord d'un car de transport en commun qui avait été arraisonné vers Namsigia, une localité située à une trentaine de kilomètres de sa destination Djibo. L'imam Sissé est un leader communautaire très respecté, mais depuis son enlèvement, le gouvernement garde le silence. Selon les témoins, le bus a été fouillé par les ravisseurs qui ont vérifié l'identité de tous les passagers avant d'amener le responsable religieux avec eux. Souabou Sissé est également le président de la communauté musulmane de la province du Soum. Surnommé le Gandhi, c'est-à-dire le sage, il faisait l'objet de menaces de mort sur son téléphone. Son domicile avait été brièvement placé sous haute surveillance des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui ont levé leur garde en février dernier sans explication, selon les proches de l'imam qui se sont confiés à la presse. En mai 2017, sa maison avait essuyé des tirs d'hommes armés. Malgré tout, il aurait refusé de quitter la ville, selon ses proches. Le tronçon Namsigia-Djibo, à moins de 200 km de la capitale, est soumis à de nombreuses attaques. Un blocus de Djibo avait été imposé par des terroristes pendant plusieurs mois. En juin dernier, c'est en hélicoptère que le président du Faso Roch Kabore s'est rendu à Djibo, sa seule visite de la localité depuis le début de son quinquennat. Les habitants lui avaient demandé la sécurisation de cette principale voie qui les lie à la capitale. C'est d'ailleurs sur cette même route que l'ancien maire de Djibo, Oumarou Diko, a été assassiné le 3 novembre 2019. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Amnesty International a appelé les autorités de Kano au Nigeria à annuler la condamnation à mort prononcée par un tribunal islamique contre un chanteur accusé de blasphème contre le prophète Mahomet. Un tribunal islamique a condamné lundi à la pendaison Yahya Aminu Sharif, un musicien de 22 ans. La diffusion d'une de ses chansons avait provoqué une émeute à Kano, grande mégapole musulmane dans le nord du Nigeria. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier, a appelé à ne pas récompenser les auteurs de crimes de sang en réinsérant dans l'armée des rebelles et miliciens, tout en reconnaissant la valeur des programmes de réinsertion. À l'issue d'une réunion à Kinshasa, Châtaignier a jugé essentiel que la justice soit rendue aux victimes. Le gouvernement négocie depuis 30 ans la reddition de groupes armés sans parvenir à mettre fin aux violences. Les forces de sécurité soudanaises se sont déployées massivement à Port-Soudan pour tenter d'enrayer les violences tribales qui ont fait plus de 30 morts et 116 blessés en 5 jours. Les accrochages se sont poursuivis jusqu'à mercredi. Nani Talani.
Selon le ministère soudanais de l'Intérieur, le gouvernement a déployé des troupes pour stabiliser et sécuriser la ville. Arrivé mercredi de Khartoum, les renforts de l'armée et de la police se sont déployés, ont établi des checkpoints, fouillé des voitures et arrêté plusieurs personnes, a indiqué un habitant. Ces troupes ont été rejointes aujourd'hui par les paramilitaires des forces de soutien rapide pour tenter de mettre fin aux violences tribales qui opposent les Nubiens et les Beni Amer depuis dimanche. D'après des témoins, des membres de la tribu nubienne qui revenaient de la région du Kordofan Sud, où ils avaient participé à une manifestation contre le nouveau gouverneur, ont pénétré dimanche dans le quartier de Dar el Naïm, un fief de la tribu des Beni Amer. Des combats armés ont alors éclaté entre les deux camps. Les autorités locales avaient décidé d'étendre le couvre-feu nocturne instauré depuis dimanche à toute la ville. C'est par le port Soudan, dans le nord-est du pays, que transite la plus grande partie du commerce extérieur du Soudan.
À l'issue d'une visioconférence à Riyad, les amis du Soudan, regroupant 26 pays et institutions, parmi lesquels les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Union africaine et la Banque mondiale, ont mis en garde contre toute action visant à faire échouer la transition démocratique devant aboutir à des élections. Un leader des frères musulmans est décédé de mort naturelle dans la prison de Tora en Égypte, selon son avocat Maître Maksoud. Ancien député et vice-président du parti Liberté et Justice, Issa Malériane avait été arrêté en 2013 après la destitution du président Mohamed Morsi. Il avait été inculpé pour collaboration avec des groupes terroristes dont Hamas palestinien et condamné à la perpétuité avec des dizaines d'autres frères musulmans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Avec plus de 20,6 millions de cas et plus de 750 000 décès, la pandémie de coronavirus continue de se propager dans le monde. Claire Morin-Gibourg.
Avec près de 8 000 morts en une semaine, les États-Unis ont eu plus de nouveaux décès devant le Brésil et l'Inde. L'Amérique latine, région la plus touchée au monde, veut produire d'urgence le prochain vaccin, qu'il vienne de Russie ou d'Europe. L'Argentine et le Mexique produiront le vaccin anglo-suédois d'AstraZeneca. Le Brésil a signé un protocole d'accord avec la Russie pour essayer et produire son vaccin Sputnik V. Devant la hausse des cas en Europe, l'Italie a durci les conditions d'entrée des voyageurs, même si un nouveau confinement de tout le pays est hautement improbable selon les autorités sanitaires. L'Irak a annoncé un record de contamination avec près de 3 900 nouveaux cas. L'Afrique reste le continent le moins touché, mais les décès dus au paludisme pourraient doubler cette année selon les chercheurs de l'Imperial College de Londres, car le coronavirus perturbe la distribution de moustiquaires et les traitements contre la malaria.
Moins d'un million d'Américains se sont inscrits au chômage la semaine passée, une première depuis fin mars, mais le niveau reste élevé. La Maison Blanche et le Congrès ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur une nouvelle aide financière. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Israël est d'accord pour stopper l'annexion de territoires palestiniens, affirment les Émirats arabes unis. Israël et les Émirats ont signé sous l'égide des États-Unis un accord de paix historique, a tweeté Donald Trump. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a également évoqué un jour historique et un pas décisif vers la paix au Moyen-Orient. Le FBI va se joindre aux enquêteurs libanais et internationaux pour tenter de déterminer les causes de l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, a déclaré le sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques David Hale en visite dans la capitale libanaise. La ministre française des Armées, Florence Parly, est également dans la capitale libanaise pour accueillir un porte-hélicoptère chargé d'aide. Bagdad a annoncé avoir contacté ses voisins et la Ligue arabe pour obliger la Turquie à retirer ses hommes d'Irak où ils combattent le mouvement kurde PKK. Mardi, un drone turc a tué deux hauts gradés et un soldat irakien lors d'une opération au Kurdistan irakien. Bagdad a annulé la visite du ministre turc de la Défense ce jeudi. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
Au Gabon, Alain Bahoumar a été reconduit dans ses fonctions de président du patronat pour un mandat de 3 ans. Une reconduction validée par le conseil d'administration de la Confédération patronale gabonaise et qui intervient au moment où l'État gabonais cherche l'appui du secteur privé pour la relance économique post-Covid. Selon les perspectives de la BAD, la Banque africaine de développement, l'économie gabonaise pétrolière pourrait connaître une récession de moins 7,5% en 2020. L'ONATEL, l'Office national des télécommunications du Burkina Faso, annonce avoir enregistré une hausse de 5,1% au premier semestre, passant de 13 milliards de francs CFA au 30 juin 2019, à un peu plus de 14 milliards de francs CFA un an plus tard. Le chiffre d'affaires de l'ONATEL est également en hausse de 2,1%, s'établissant à 79 000 milliards de francs CFA. Les nouvelles inscriptions au chômage ont baissé aux États-Unis, passant sous la barre du million pour la première fois depuis mars, selon les chiffres publiés ce jeudi par le département du travail. Quelques 963 000 personnes se sont inscrites au chômage entre le 2 et le 8 août, en baisse par rapport aux 1,19 million de la semaine précédente.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'attaquant du tout-puissant Mazembe, Jackson Muleika, prend finalement la direction de la Belgique. Le meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF avec 7 buts et comme meilleur buteur du championnat de la RDC, 12 réalisations, va évoluer sous les couleurs du Standard de Liège. Le montant du transfert du jeune attaquant de 20 ans n'a pas été révélé, encore moins la durée de son contrat. Mais une chose est sûre, tout s'est passé dans les règles de l'art. Jackson Muleika.
Le président qui est mon papa, je lui ai demandé si je pouvais partir, tenter la chance ailleurs. Il m'a dit que je le pouvais si le club venait dans le normal. C'est ce qui est arrivé. Le Standard est venu vers le club et ils ont négocié pour trouver un accord.
Jackson Muleika, nouvel attaquant du Standard de Liège. Et puis, le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting a envoyé le PSG dans le dernier carré d'as de la Ligue des Champions. Entré en fin de rencontre, le Lion indomptable a inscrit le but qualificatif de son club à la 93e minute, permettant à Paris de l'emporter 2-1 et de retrouver les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1995. Eric Maxime Choupo-Moting.
C'était un moment exceptionnel. Quand je suis entré, le coach m'a dit de tout donner. Et moi, j'ai eu confiance en moi, confiance à l'équipe. Je pense que toute l'équipe n'a jamais perdu l'espoir.
Eric Maxime Choupo-Moting, attaquant du PSG, dont le contrat avec les Parisiens prend fin après la Ligue des Champions. Le deuxième quart de finale se joue ce soir entre les Allemands de Leipzig et l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey. Et puis, l'international français Blaise Matuidi va rejoindre l'Inter Miami et le championnat américain de football. L'annonce a été faite par le club floridien. Matuidi, 33 ans, a annoncé hier son départ de la Juventus Turin. Il va retrouver à Miami David Beckham, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain et l'un des copropriétaires du club qui fait ses débuts en MLS cette saison. On reste ici aux États-Unis pour parler de la NBA dont le tableau des playoffs est connu. À l'Est, Milwaukee fera face à Orlando et Toronto affrontera Brooklyn. Boston sera opposé à Philadelphie et Miami à Indiana. À l'Ouest, les Los Angeles Lakers attendent toujours de connaître leur adversaire. Leurs rivaux, les Clippers, joueront contre Dallas, à suivre dans les deux autres oppositions, Denver, Utah et Oklahoma City, Houston. Le premier tour des playoffs se dispute au meilleur des 7 matchs, la première équipe avec 4 victoires étant qualifiée pour le tour suivant.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Cameroun, les récentes atrocités contre des civils dans les régions anglophones ont été vivement condamnées. Au cours de la semaine dernière, des présumés séparatistes ont tué 13 civils, dont des travailleurs humanitaires. Des images vidéo de femmes décapitées ont circulé sur les réseaux sociaux. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, relaté par John Lyndon.
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, des hommes vêtus de noir semblent décapiter une jeune femme à la machette en la qualifiant de traître. Les autorités camerounaises ont confirmé qu'une femme a été décapitée mardi à Mouyouka, une ville du sud-ouest. C'était le 13e meurtre du genre enregistré la semaine dernière dans les régions anglophones. Vendredi, une autre femme a été décapitée à Bamenda dans le nord-ouest. Dans une vidéo, ces assassins affirment qu'elle a été vue avec un officier camerounais envoyé pour combattre les rebelles. Christopher Bella du Cameroon Right Group, basé à Bamenda, affirme que ces types de meurtres sont de plus en plus fréquents.
Les habitants du nord-ouest et du sud-ouest espèrent que quelqu'un viendra résoudre la crise séparatiste. Ils sont fatigués et ils aimeraient avoir la paix. Tout le monde veut la paix. Nous espérons que ces meurtres à gauche et à droite prendront fin pour que les Camerounais retrouvent la paix.
À Bamenda, cette semaine, deux enseignants ont également été tués. L'un a été abattu et l'autre poignardé. Les séparatistes considèrent les enseignants comme des cibles car, selon eux, ils poussent à la domination francophone sur les régions anglophones. Les autorités camerounaises affirment que les rebelles visent également les travailleurs humanitaires et en ont tué 3 la semaine dernière. Le 7 août, Tandjo Christopher, pasteur et travailleur humanitaire, a été tué à Batibo, une ville du nord-ouest. La directrice de l'ONG Plan International Cameroun, Myriam Castaneda, a condamné ces attaques.
Nous souscrivons aux principes humanitaires de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Il est donc triste et douloureux que ces choses se produisent. Mais nous devons continuer à promouvoir les principes humanitaires. La seule chose que nous pouvons faire est de continuer à être optimistes, que la situation va s'améliorer et continuer à travailler avec les gens qui ont tant besoin de nous.
Le gouverneur de la région anglophone du Nord-Ouest, Teben Tshofo, accuse les rebelles qui, selon lui, perdent du terrain.
Ceux qui essaient de perturber l'ordre public dans la région du Nord-Ouest feront face à la puissance de nos forces de sécurité.
Le porte-parole des séparatistes Capo Daniel admet que certains combattants ont attaqué des civils, mais selon lui, la plupart des attaques sont le fait de groupes créés par le gouvernement pour donner une mauvaise image des rebelles. Daniel a pris la parole dans un message partagé sur les réseaux sociaux.
À Bambili, où un défenseur des droits humains a été enlevé, nous avons renvoyé le combattant auteur de l'enlèvement et nous l'avons rendu public. Mais la population doit aussi comprendre qu'il y a des traîtres qui ont reçu de l'argent de l'armée camerounaise pour commettre des atrocités.
L'armée camerounaise a fermement nié toute implication dans les attaques sur les civils et les travailleurs humanitaires. L'ambassade des États-Unis à Yaoundé a condamné mardi le meurtre des travailleurs humanitaires et a appelé à des enquêtes pour retrouver et punir les coupables. Selon les Nations Unies, le conflit séparatiste au Cameroun a fait plus de 3 000 morts et un demi-million de personnes déplacées depuis 4 ans.
Ce jeudi 13 août 2020, la République centrafricaine célèbre le 60e anniversaire de son indépendance. Une cérémonie marquée par une parade militaire sur la grande avenue de Bangui. Retour sur la proclamation de l'indépendance de ce pays fragilisé par les conflits avec Freeman Sipila, correspondant de VOA Afrique à Bangui.
Indépendance, avant-guerre, c'est
à
âgé aujourd'hui de 92 ans, Mgr Joseph Maringui avait 32 ans le jour de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine le 13 août 1960.
À un moment donné, quand Dako a prononcé le discours de l'indépendance, alors le drapeau français qui était en haut descendait, on tirait en bas. Et le drapeau centrafricain montait, cette image m'est restée.
La joie, l'émotion, mais il y a aussi le doute et la crainte parmi les centrafricains, Mgr Joseph Maringui.
C'était la joie comme aussi le doute. Beaucoup pleuraient, pourquoi? Parce qu'ils doutaient de la gérance de notre pays. Certains disaient, est-ce que vraiment le Zoubandien, devenu aujourd'hui centrafricain, est-ce qu'ils vont faire exactement comme le blanc.
1er janvier 1966, le jeune État connaît son premier coup d'État. Jean-Bédel Bokassa prend le pouvoir en renversant le président David Dako. Bokassa se proclame empereur en 1976 avant d'être chassé par un autre coup d'État conduit par la France en 1979. C'est le début d'un cycle de crise militaro-politique à répétition.
Ce que je loue quand même à Bokassa, c'est que quand il était au pouvoir, on travaillait. C'était un moment où les gens travaillaient beaucoup. On n'avait pas besoin de courir en France ou ailleurs pour avoir l'argent. Ben, c'était une triste époque, parce que nous étions revenus en arrière pour l'Empire. Et tout le monde a boudé cela.
Félix Mbowadé, ancien militaire et cadre de l'UBAC à la retraite, avait 9 ans le jour de la proclamation de l'indépendance. Pour lui, il y a une nette différence entre l'époque post-coloniale et nos jours.
Dans notre temps, c'était le respect envers les parents, que ça soit pas ton papa ni ta maman, mais tu dois obéir à n'importe qui se présente, et ça a été bon. Il n'y avait pas de provocation, de division de race, il n'y en avait pas. Maintenant, là, il y a la division.
60 ans après la proclamation de son indépendance, la République centrafricaine affiche un tableau sombre et est à la traîne comparée aux États voisins de la sous-région. Pour le président actuel Faustin Archange Touadéra, seule l'unité peut reconstruire la République centrafricaine.
Nous avons désormais notre destinée en main. Nous devons progressivement réaliser les rêves légués par nos pères fondateurs. C'est aussi l'occasion de réaffirmer la responsabilité qui nous incombe d'œuvrer tous ensemble pour consolider l'unité nationale, retrouver le vivre ensemble et la cohésion sociale. Notre pays franchit les étapes de développement de manière graduelle. Grâce à vos efforts conjugués, c'est le fruit de notre détermination, de votre détermination et la volonté claire de tourner les pages sombres des crises récurrentes qui ont causé d'immenses souffrances à nos populations.
Pour la première fois depuis plusieurs décennies, un défilé militaire a marqué ce 13 août 2020 le 60e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine. Fumansi Pila Bongi pour VOA Afrique.
La pandémie de Covid-19 a mis à mal les finances de dizaines de millions de ménages américains qui peinent à payer leur loyer. Selon des données du bureau du recensement, environ 30% des Américains disent avoir peu confiance en leur capacité à payer le loyer du mois suivant. Au moins 40 millions de personnes courent le risque d'être expulsées, estime l'Institut Aspen. Pour connaître l'impact sur les communautés d'origine africaine, Eric Manirakiza a joint à New York notre confrère Dambabou.
Bon, il faut dire que la pandémie a eu un impact colossal sur les activités professionnelles de la communauté africaine ici à New York et dans la côte Est en général, parce que vous pouvez retenir 4 activités qui sont essentiellement celles que les Africains pratiquaient. D'abord, c'est les chauffeurs de taxi, ça c'est important, et vous savez qu'avec la pandémie, cette activité était complètement à l'arrêt. Pas plus tard que hier, la commission taxe, le monsieur de commission disait que 52 chauffeurs de taxi ont été en fait emportés par la maladie. Ensuite, les femmes qui font les tresses, donc la proximité physique que ce métier exige, faisait que ce métier a été complètement pratiquement à l'arrêt aussi. Et il y a aussi les restaurants. Vous pouvez savoir que les restaurants ont été complètement fermés. Donc ce type de métier, ces 3 en tout cas au moins, ont été importants pour la communauté africaine, et ces métiers ont été des premières victimes pratiquement de cette maladie. Et donc ça crée beaucoup de difficultés au niveau de la communauté.
Beaucoup d'Américains risquent d'être expulsés dans leur maison parce qu'ils ne peuvent pas payer
leur loyer. Est-ce que c'est la même situation?
C'est la même situation, comme je vous l'ai dit, parmi les métiers que je citais tout à l'heure, il faut ajouter les gens qui vendaient aussi dans la rue, qui avaient comme principaux clients les touristes. Le tourisme a été arrêté à New York, par exemple. Donc, ça a été complètement un problème pour payer le loyer, parce que les gens qui n'avaient pas de métier, avec un salaire, avec un paycheck, comme on dit en anglais, qui vient tous les 15 jours, qui dépendait de leur activité quotidienne pour prendre en charge les frais au niveau de la maison. Si le mari était chauffeur de taxi, la femme était, si vous voulez, hairdresser dans les salons de coiffure, etc. C'était très, très compliqué. Donc, quand on a eu effectivement ce paiement d'assurance chômage, ça avait vraiment beaucoup aidé et ça se sentait même au niveau des regroupements des Africains. Quand vous les fréquentez, vous vous rendez compte que ces gens-là n'avaient pas les moyens d'avoir un boulot avec télétravail et autres qui étaient complètement à l'arrêt. C'était vraiment quelque chose d'important, mais c'est devenu très très compliqué depuis que ce paiement a été arrêté et on n'est pas sûr que le Congrès et la Maison Blanche vont se mettre d'accord encore pour reprendre et dans quel terme, même s'ils devaient reprendre ce paiement.
C'était le journaliste Dambabou, il était joint à New York.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le présumé candidat démocrate Joe Biden a présenté mercredi sa colistière Kamala Harris. La désignation de la sénatrice noire de Californie a été saluée par les commentateurs comme un choix historique. Ce duo affrontera en novembre le président sortant Donald Trump et son vice-président Mike Pence. Bagassi Koura a joint Herman Cohen, un républicain et ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Je crois que le moment dans notre histoire est arrivé qu'il y a une femme qui occupe la poste de vice-président et peut-être éventuellement président. Et ça, c'est une très bonne chose. Et elle, je vois qu'elle a une expérience formidable. Elle était élue sénateur, elle était élue procureur général de Californie, qui est une responsabilité énorme. Et elle savait, elle a bien géré le bureau, donc elle est complètement qualifiée pour la poste.
Alors, parmi tous les noms qui circulaient, vous pensez que c'est la personne que le camp Donald Trump craignait le plus?
Je crois que oui, parce qu'elle était vraiment tellement qualifiée. Toutes les autres femmes étaient bien aussi. Mais elle était à la hauteur, je crois. Elle était le plus qualifiée. Et je n'ai pas peur de voir cette femme présidente des États-Unis, vraiment.
Oui. Alors, on a vu déjà quelques réactions, hein, avec notamment les républicains qui tentent de la qualifier de radicale de gauche.
Oh, ça, c'est complètement faux. Elle est une femme de centre, à mon avis. Elle est typiquement démocrate, modérée. Par exemple, elle voudrait avoir assurance santé pour tout le monde. C'est pas acceptable qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'assurance médicale. Vous allez en Europe, tous les gens ont des assurances médicales. C'est pas radical de gauche, ça. Ça c'est centriste.
Alors, ces attaques illustrent un peu, hein, les difficultés que les républicains auront à s'en prendre à elle.
Exactement, exactement. Ils disent des choses ridicules, qu'elle était très à gauche, radicale de gauche, c'est ridicule. Ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de raison de dire ça. Trump a dit en anglais, elle a dit qu'elle est nasty, c'est-à-dire qu'elle est méchante. Ça, c'est ridicule.
Oui. À votre avis, comment va se passer ces trois derniers mois, d'autant plus qu'il n'y aura véritablement pas de campagne? Comment est-ce que les candidats vont se débrouiller?
Oui, c'est difficile. À cause du virus, ce sera difficile d'avoir des choses en public, n'est-ce pas, avec des milliers de gens. Ils vont faire ça par ordinateur, etc., aussi à la télévision. Avec la télévision, ils peuvent arriver à toucher des millions de gens, n'est-ce pas?
Herman Cohen est ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez suivre l'actualité en continu sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Très bonne soirée à toutes et à tous.